Christiane Olivier, vous savez, dans Les Enfants de Jocaste, a laissé entendre lors d'une conférence qu'une mère ne pouvait désirer qu'un garçon comme enfant, qu'elle ne pouvait désirer une fille parce que c'est une réplique d'elle-même en tant que femme. Vous, est-ce que vous croyez qu'une mère peut désirer un enfant-fille? Alors nous sommes en plein dans l'ambiguïté du mot désirer. Christiane Olivier est une psychanalyste, elle parle du désir inconscient. Le désir conscient, on désire son frigidaire, hein, on désire s'acheter un frigidaire, on désire faire une croisière, on met de l'argent de côté pour se payer une croisière. Et l'enfant vient à bon moment quand on a son budget qui est prêt. C'est pas le désir inconscient. Le désir inconscient d'enfant, en effet, c'est la palissade ce qu'elle vous dit. Une femme qui est femelle ne peut pas désirer une femelle quand elle est devenue femme. Elle peut, si elle est enfant, désirer une femme. Mais quand elle est devenue femme, elle ne peut pas désirer une femme. Et son enfant femme, c'est elle-même. Elle ne peut pas désirer elle-même. On ne se désire pas soi-même. Sans ça, ça serait avaler sa carte de visite. Si on se désire soi-même, eh oui. Se désirer soi-même, c'est le suicide. C'est ça, le suicide, c'est se désirer soi-même. Se désirer en négatif ou en positif, je vous ai dit tout à l'heure que ça faisait aucune différence pour l'inconscient. Ça crée une dynamique. Alors, se désirer en positif, c'est pas possible. C'est, ben oui, c'est Narcisse. Narcisse s'est désiré, ben il s'est noyé. Bon, alors, elle a eu raison sur le plan de l'inconscient, du désir en tant que sexuel. La sexualité féminine désire son complément, c'est-à-dire le mâle. Voilà ce qu'elle a voulu dire. Et c'est ça qui fait l'ambiguïté quand on entend le mot désir sur le plan conscient ou sur le plan inconscient. On peut être très heureux, on peut désirer dans le sens conscient avoir une fille, pourquoi pas. C'est reproduire avec sa fille une relation que la mère a eue avec soi. Et reproduire avec un garçon, on ne peut pas reproduire avec un garçon. Hein? Donc, le désir qui est toujours du nouveau, ce désir nouveau, c'est avec un garçon, parce que nous sommes sortis de notre mère, mais nous ne sommes pas directement sortis de notre père. Nous sommes sortis de notre père indirectement par notre mère. Donc, sortir, avoir une relation de corps intime avec le garçon, ça a quelque chose de nouveau. Donc, c'est du désir. Le besoin, c'est répétitif. Le nouveau, c'est du désir. Jamais, jamais, le désir... Mais s'il a une partie répétitive, c'est la partie non-désir du désir. Le désir, c'est ce qui ouvre sur de nouveau que nous ne connaissons pas et qui porte un fruit nouveau. Sinon, c'est une répétition, c'est une satisfaction connue. Le vrai désir, c'est vraiment l'inconnu, la surprise. Et c'est toujours un risque. C'est un risque aussi pour une femme d'aimer, de désirer son fils, tandis qu'il n'y a pas de risque avec une fille. Il n'y en a aucun que celui qu'elle vous fasse bien des ennuis. Mais il n'y a pas de risque inconscient. Il y a un risque inconscient avec le fils. Il y a un risque inconscient que le fils, il énuque le couple et qu'il fasse partir le père parce que la mère s'est piégée dans son désir féminin pour la libido masculine de ce fils qui est très forte chez un enfant. Quelquefois, elle est la libido qu'il aura toute sa vie. Mais à l'état d'enfant, elle est plus forte que quand il sera homme, puisqu'il n'a que ça à penser, sa mère. Hein? Donc les enfants sont dans leur libido, quel que soit leur libido. Ils sont plus forts qu'ils auront comme libido à 35 ans. Leur partie, ils n'auront pas perdu des pions comme un père avec les castrations. Ils n'ont pas encore perdu, ils ont toute la puissance de leur désir. Voyez? C'est pour ça qu'il y a le risque de se piéger dans le désir, en réponse au désir d'un fils pour sa mère, au lieu de lui donner la castration, parce que pour la mère, c'est bien plus dur de donner une castration à son fils qu'à sa fille. Quand vous dites quel est le parent capable de prendre soin de l'enfant, mais il n'y a plus de soin à prendre après 8 ans d'un enfant. Il a besoin qu'il y ait quelque chose dans le frigidaire, que la maison soit tenue, mais il n'a pas besoin qu'on soit à prendre soin de lui. C'est à lui-même à prendre soin de lui. Bon, il y a ça. Il y a aussi les gardes. Quand un enfant, le père a... Mais c'est ça que la commission qui entoure le juge pourrait aider l'enfant, parce que les enfants régressent quand il y a divorce. Ils régressent pour rester l'enfant l'enfant d'un parent célibataire, il régresse beaucoup moins quand le parent divorce en vue de se conjoindre à nouveau avec un autre adulte. Ça, il divorce beaucoup moins. Mais il est certain que, a priori, comme ça, en général, à partir de 5 ans, un garçon devrait être avec son père et une fille avec sa mère. En général, comme ça, quand on n'étudie pas. À partir de 5 ans, c'est l'âge où un garçon souffrira sans névrose d'être séparé de sa mère, alors qu'il souffrira en devenant névrosé d'être séparé de son père. C'est la souffrance est structurante ou la souffrance est traumatisante et à long terme stérilisante ou demi-stérilisante. C'est ça qui est important. Les mères qui veulent s'intéresser à leur enfant qui est en garde chez le père, moi j'en ai connu, qui ont compris ça. Et le père dit, tu viendras le voir aussi souvent que tu voudras, surtout si c'est pour l'aider à faire ses devoirs, parce que moi j'ai pas beaucoup de temps, je suis occupée et tout ça. Tout ce qui va rendre cet enfant plus garçon, la mère peut le faire. Mais si c'est pour vivre avec elle, alors qu'elle n'a pas de conjoint, il n'aura pas de possibilité de se développer à devenir garçon, c'est-à-dire castré du plaisir d'être en dualité avec sa mère. Parce que le terrible pour un fils, c'est quand sa mère, il est pour elle l'objet premier de son souci, soit qu'elle soit célibataire, soit qu'elle est un conjoint de passage ou un conjoint légal. Je lui dis, c'est pas ton fils, il ne veut pas y toucher. Enfin, vous voyez ça tout le temps. C'est pas mon fils, alors je ne peux rien dire, c'est sa mère. Mais si, puisque vous êtes au foyer, vous êtes l'homme ouvrier, vous avez à donner l'exemple de la vie d'un homme qui est chez lui, maître chez lui. Ah, mais ma femme ne voudrait jamais. Alors, c'est là qu'ils peuvent parler s'il y avait une commission qui étudierait les choses, comme les gens qui viennent dans ces cas-là. Je vois un psychanalyste qui discute avec eux, qui voit les deux parents. Mais pourquoi avez-vous peur, madame, que votre mari, votre second mari, s'occupe de votre fils? Mais c'est pas son père, il n'y a aucune raison. Alors, placez-le dans la famille de son père, si c'est ça. Ah, mais enfin, je suis sa mère. Je dis, oui, mais vous ne voulez pas qu'il soit élevé comme un garçon et que ce soit un homme qui prenne l'autorité sur lui. Comment voulez-vous que cet enfant développe sur lui-même une autorité virile? Il développe une autorité femelle sur lui-même à l'image de vous. C'est là qu'on soutient d'une façon perverse cette idée qu'ont les psychologues et qu'ils ont mal interprété de l'identification. Alors, pour être viril avec soi-même, il faut développer une conscience de femme sur un homme. C'est pas possible. L'enfant garçon a besoin d'être élevé par un père, même maladroit, mais qui est son père, si ce père veut bien. Si le père dit, moi, je peux pas m'occuper de mon fils, bon, c'est autre chose. Mais c'est mauvais qu'il reste avec une mère célibataire. C'est mauvais que si la mère est couplée, la mère se mette en travers de l'éducation que peut lui donner son conjoint. Voilà ce que je peux vous dire en tant que psychanalyste qui ai vu les grabuges de ces situations s'établir et l'enfant vivre son Édipe, comme nous disons, d'une façon perverse, en n'étant jamais castré par le père avec l'assentiment de la mère.
Que se passe-t-il quand il y a perte des parents pour les enfants ? Une autre question, que peut-on élaborer sur le devenir de très jeunes enfants ayant des mères psychotiques ou fortement carencées, névrosées d'ailleurs, pas carencées?
Il est certain qu'il y a des enfants qui n'ont pas de mère. Moi, ça fait depuis 79, je ne fais que m'occuper que d'enfants abandonnés. C'est mon métier d'analyste, pas d'éducateur. Eh bien, le travail de l'analyste, on les amène d'ailleurs beaucoup trop tard au psychanalyste. Maintenant, on les amène plus tôt. On les amène quand les enfants sont en train d'évoluer, de devenir psychotiques de cette absence de mère et qui n'aura jamais été dite. Là encore, ce n'est que la parole qui les aide à souffrir de ce que leur mère les a abandonnés. Si on en sait la raison, on l'a dit. Et si on n'en sait pas la raison, l'enfant la sait, lui. Il ne peut pas nous la dire, parce qu'il n'a pas la possibilité à 4 mois, à 3 mois, à 8 mois, de nous dire avec des mots ce qui s'est passé entre lui et sa mère, et entre sa mère et son père. Lui, il l'a vécu. Sa vie est le fruit de ce qu'il a vécu. On est arrivé à le sauver, c'est ce qu'il faut lui dire. Et puisqu'il n'est pas mort de l'abandon, de la relation à cette mère dont, heureusement, c'est presque toujours le prénom, donc on peut lui parler de cette maman dans le ventre de qui tu as grandi avant de naître et de respirer, quand ils comprennent tout à fait, les enfants comprennent tout. eh bien, puisque tu as survécu, c'est qu'elle est à l'intérieur de toi, en souvenir, et qu'elle serait bien fière de voir que maintenant tu as dépassé le deuil de cette mère que tu ne reverras jamais, parce qu'on a perdu son adresse et qu'elle ne sait plus où tu es. Et c'est, je suis, alors ces enfants hurlent de douleur devant les maternantes absolument terrifiées de voir un enfant qui était chose et ne pleurait même plus, mangeait mal n'importe quoi et ne dormait pas. Mais alors elles sont tellement heureuses de voir que l'après-midi il mange très bien, la nuit il va dormir, quelquefois dès la première séance. Mais quand on respecte chez l'enfant son désir de comprendre sa souffrance et de la lui parler, mais cet enfant se construit sur cette souffrance. Et ensuite, il se construit et il se développe très, très, très bien après, puisqu'on a des suites maintenant jusqu'à 8 ans de ces enfants soignés. Hein? Et quand le deuil est vraiment fait, puisque eux, tout l'être humain, vous, madame, moi, vous représentez votre père et votre mère. Donc vous n'avez pas besoin, on n'a pas besoin de sa mère, on a besoin d'une tutelle assez intelligente pour donner la satisfaction des besoins. Que la mère soit présente ou pas, puisque l'enfant survit, c'est qu'il est une représentation de sa mère intériorisée. Une mère qui l'a abandonnée doit être vécue dans la parole comme celle qui l'a abandonnée et dont il a souffert, dont il ne sait pas la raison, moi non plus. Puisque les DAS ne savent pas, enfin en tout cas les personnes qui s'occupent de l'enfant, même si un bureau quelque part le sait, cet adolescent, enfin à 18 ans, il aura le droit de savoir, il l'exigera. S'il l'exige, il aura le droit, car rien ne s'y oppose dans les textes, tout s'y oppose dans les mœurs des DAS. Mais rien ne s'oppose dans les textes à ce que tout enfant qui a été abandonné sache où, quand et qui l'a abandonné. Je sais, puisqu'il y a une œuvre en France qui a toutes les difficultés du monde à avoir des réponses d'EDAS, et quand c'est un préfet qui s'en occupe et qui
va... l'équivalent du bien-être social.
C'est ça. Eh bien, les mœurs se font que les personnes d'EDAS sont effrayées à l'idée qu'un être humain demande qui a été la mère qui l'a abandonnée. Alors que s'il veut le savoir, c'est qu'il a ses raisons. Et ça ne veut pas du tout dire que le sachant, il ira la voir, cette personne. Mais c'est déjà quelque chose d'important, pour beaucoup de raisons, et entre autres, pour l'interdit de l'inceste qui veille tellement profondément chez ceux qui n'ont pas de famille, et qui les rend tout à fait suspicieux de qui ils pourraient rencontrer pour épouser, et ils ont peur que ça puisse être dans la région où ils étaient abandonnés, et que ça puisse être une sœur, si c'est des garçons, ou un homme, un frère, si c'est une fille, sur lequel ils tomberaient. C'est une des choses auquel j'aurais jamais pensé, j'avais pas rencontré tant d'adultes qui demandaient à savoir d'où ils étaient nés et pour quelles raisons. Quand ils étaient à partir du moment de la recherche d'un conjoint ou d'une conjointe, c'était toujours avec le fantasme en arrière de leur tête pour être sûr qu'ils ne vont pas tomber sur un frère ou une sœur qui leur serait tellement sympathique qu'ils seraient amoureux d'elle et qu'ils seraient des incestueux sans le savoir. Mais à partir du moment où ils le savent, très souvent, ils savent qui c'est, il n'y a aucun danger, bon, bah, alors ça va, je sais que c'était une personne là-bas. Bon. Et quand ce sont les enfants de famille adoptive, donc qui portent un autre nom et qui sont symboliquement adoptés par une famille, il arrive aussi qu'ils aient envie de connaître qui les a adoptives ou légalement ou adoptive affectivement. C'est aussi la même chose, j'en ai connu pas mal. Et vous ne savez pas la raison pour laquelle ils veulent. Eh bien, c'est plus tard. C'est quand ils sont parents, ceux-là, qui ont eu des parents affectivement, des fermiers, des fermières, ils ont été des enfants latéraux à ces gens et ils sont très heureux. Et c'est quand ils sont devenus parents qu'ils cherchent leur origine. Et la raison en est, si elle avait besoin de moi, je voudrais tant pouvoir donner à ma mère, légitime, qui n'a pas pu s'occuper de moi, ce que ma mère nourrice m'a donné. C'est formidable. Et on voit des pères qui viennent et qui vous disent, vous savez, vous avez soigné ma fille il y a 10 ans, ben je viens, c'est pour moi. Et je ne vous ai jamais dit, je suis un enfant qui a été laissé par sa mère à 2 ans et ma nourrice me disait de ma mère qu'elle n'avait pas revu, etc. Et ma mère, elle aurait maintenant 68, 69 ans et je voudrais tant qu'elle ne soit pas dans la difficulté, parce que si elle a eu qu'un fils, si elle a eu d'autres, on verra, mais si elle a eu qu'un fils, c'est à moi de faire quelque chose pour ses vieux jours. Et voilà pourquoi ils ont besoin de rechercher leurs ancêtres, et c'est très important, parce qu'il n'y a de père symbolique pour un enfant, ou de mère symbolique pour un enfant, qu'une mère qui se réfère à sa mère et qu'un père qui se réfère à son père. Pour que l'enfant se sente une identité dans une lignée humaine, il faut qu'il y ait deux avant lui. Il est le troisième dans une lignée. Sinon, il est comme un chiot dont on sait le pédigré, mais ce n'est pas représenté par des personnes dans un lieu qui ont une vie sociale, même s'il avait son pédigré. Et dans les familles légitimes, où les gens ont leur pédigré, si vous voulez, ces familles légitimes, si on ne parle pas d'un grand-père, pour des raisons d'affectivité, de brouille entre le père et son père, ça fait des carences chez l'enfant parce qu'il n'y a pas trois personnes. Il vaut mieux en parler en disant « Ah là là, il était épouvantable, qu'est-ce que j'en ai bavé avec mon père, etc. » Parce qu'alors il connaît le grand-père, c'était celui qui en faisait baver à son père. Il vaut mieux ça que si le père n'en parle jamais. Le silence sur le père du père, le silence est pire que de dire du mal. Parce que le père est resté en relation négative à ce géniteur. Le négatif, c'est du positif pour l'inconscient. Voilà encore une autre chose pour la prévention, c'est que pour l'inconscient, il n'y a de négatif que l'absence de symbolisation, de mots pour en parler. Et parler en mal de quelqu'un, c'est du positif dans l'inconscient, si c'est du négatif pour le conscient. Voilà quelque chose de très important pour la prévention. Ah, je n'aurais jamais parlé de mon père, c'est un salaud et tout ça. Et oui, mais c'est pour ça que votre enfant a dans ce moment les troubles qu'il a. Vous devriez, puisque vous venez d'en parler, personne qui tremble du menton en disant non, non, arrêtons, je ne veux pas parler plus. Finalement, vous ne voulez pas parler de ce qui s'était passé avec son père ou avec sa mère, etc. Bon, à partir du moment où on peut comprendre, on peut analyser la résistance, que ça va faire du bien à son enfant si elle peut en parler, et souffrir de parler de ce dont elle s'était dit, ou il s'était dit qu'il n'en parlerait jamais, l'enfant qu'on n'a même pas vu se met à aller mieux là où il est. Parce que il faut à partir de, au plus tard 7 ans pour un enfant, mais généralement à partir de 4 ans, 5 ans, c'est-à-dire il y a 3 ans pour savoir son sexe, et il y a 5 ans, 3 à 5, pour devenir vraiment édipien, et 5 à 7 pour résoudre l'Œdipe. Bon, pour devenir édipien, il faut qu'il y ait une lignée, et pour résoudre l'Œdipe, il faut que le père ait eu un père, la mère ait eu une mère, et qu'on ait un père. Et le père est, si c'est une fille, il faut que le père ait eu une mère, bien sûr un père aussi, mais surtout, qui puisse parler de sa mère, même absente.
Alors ici, par exemple, on dit, est-ce que le fait d'avoir une relation symbiotique, une relation très étroite, mère-fils, vécue jusqu'à la préadolescence dans une telle famille, quel est l'effet sur la puberté? Et en particulier quand les contacts père-fils ont été très sporadiques par imposition de la mère. Je pense que c'est un problème qui est sans doute très fréquent.
Oui, et plus important encore que les problèmes père-fils et fils-mère, c'est les problèmes de ce fils vis-à-vis de la lignée du père. Le père est un maillon d'une lignée. Donc, si le fils a peu de contact avec son père, de contact réel, s'il sait son existence et qu'il peut savoir, il est habilité à penser que quand il sera assez fort pour ne pas dire à sa mère tout ce qu'il fait, il ira voir où travaille son père, et il ira faire connaissance de la famille de son père, de son grand-père paternel, des oncles paternels, alors ça s'effacera beaucoup. Mais il est évident que le fait d'une relation incendiaire entre un fils et sa mère sans troisième, sans amant, le père, il y a deux choses. Il y a le père en tant que maillon d'une lignée, et il y a le père en tant que gardien de la mère. Il est certain que si la femme n'est pas gardée par un amant que l'enfant sait qu'elle a, même s'il n'est pas au foyer, et n'est pas gardée par l'idée que l'enfant sait qu'un adulte a besoin et désire et aime un adulte, c'est-à-dire à une relation génitale d'amour, de désir, eh bien, c'est quelque chose qui fait qu'il se mutile de sa génitalité. Il aime sa mère, il papouille sa mère, il plotte sa mère, il ne peut pas éviter d'avoir des érections en se faisant, mais il se barre, par exemple, il se barre le fantasme et le projet de la pénétrer. Donc, il va devenir un viril homosexuel passif. Voilà le danger d'un fils qui n'aime que sa mère, c'est plus tard l'homosexualité passive, au moins un certain temps. Peut-être va-t-il devenir hétérosexuel à 60 ans, à 65 ans, et j'en ai vu des exemples. Il n'y a pas d'âge, c'est ça encore, pour messieurs, vous avez la chance, c'est que vous êtes fécond au-delà même de votre vie, et vous êtes donc viril, gonadiquement viril, bien au-delà de l'andropause, alors que les femmes ont un âge où la ménopause fait l'arrêt de leur possibilité de fécondité. Et c'est très important dans la différence sexuelle. Et c'est pour ça que les hommes évoluent toute leur vie. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont souvent besoin d'avoir plusieurs femmes pour évoluer. Alors qu'une femme peut évoluer avec des fantasmes différents avec le même homme. Mais les hommes ont besoin de réaliser leur projet avec des femmes différentes. C'est quelque chose de difficile dans les sociétés juridiquement monogames. Hein, et c'est pour ça que maintenant, on voit de ces divorces, ces choses, qui sont moins difficiles à vivre pour les hommes que pour les femmes. Et pour les garçons, naturellement, que pour les filles. Alors les garçons, voilà ce que je peux dire sur un garçon qui vit de façon jusqu'à 12-13 ans vraiment en couple avec sa mère, eh bien c'est qu'il est freiné dans les projets d'aimer avec pénétration. Ce qui va faire de lui un homme plus facilement homosexuel passif qu'un homosexuel viril. Car il ne faut pas se tromper, c'est qu'il y a des femmes qui sont passives et alors de ce fait elles ont l'air d'être femmes, mais elles sont passives en fer doux. Elles ne sont pas passives en électricité négative par rapport à l'électricité positive, ou inversement, positive par rapport à l'homme qui serait électricité négative. C'est-à-dire qu'elles n'émettent pas des pulsions de désir avec le désir d'être pénétrées d'un homme, par un homme. Elles veulent bien être pénétrées, elles laissent faire. Elles sont choses, mais leur génitalité n'est pas éveillée par le désir de l'homme. Tandis que l'homme, il ne peut pas ne pas être éveillé au désir de pénétrer. C'est fait partie de l'homme. Et quand il n'a pas ce désir de pénétrer génitalement, il a presque toujours un désir de pénétrer psychologiquement, dans le sens, les hommes sont beaucoup plus dans la recherche que les femmes, recherche abstraite même. Hein, ils sont phalliquement, ils développent, ils déplacent de leur génitalité sur autre chose, agir dans la société, visiblement. Ils sont jaloux de la paternité de leurs œuvres. Les femmes, pas du tout. Elles savent que ce qu'elles ont fait, ben elles l'ont fait, il n'y a pas besoin que tout le monde le sache. Hein. Mais oui, c'est complètement différent. C'est pas du tout du masochisme. Vu par les hommes, ça peut être du masochisme. Pour les femmes, pas du tout. C'est une telle certitude qu'elles n'ont pas besoin du paraître. Hein? Alors, pour l'homosexualité du garçon, elle s'enracine dans un amour trop grand de sa mère idéalisée jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Et ça ne veut pas du tout dire qu'il sera homosexuel toute sa vie. Mais il va être homosexuel dans la période juvénile et dans la période peut-être adulte. Et puis il se réveillera le désir de porter descendance dans une femme plus tard. Et peut-être que ça lui permettra de passer de l'homosexualité passive à une hétérosexualité active, et pas du tout à une hétérosexualité active, à une homosexualité active. Il passe, il y a des hommes que j'ai vu passer de l'homosexualité créatrice sur le plan artistique, par exemple, mais homosexuel fixé à leur mère, et ayant des amis des deux sexes, mais ayant des relations avec des hommes seulement, mais passifs, et puis arrivant vers 50 ans, 55 ans, à l'amour juvénile, c'est-à-dire à 55 ans, aimant les minettes, aimant peut-être pas des mineurs, ils essayaient d'être dans la loi, mais des femmes très jeunes. Grâce à quoi ce côté juvénile qui s'était développé tardivement parce qu'il avait été retardé par l'amour de la mère, se développait, ils étaient adolescents, normaux, si on peut dire, à 55 ans. Mais comme ils ont un sperme fécond jusqu'à la fin de leur jour, pourquoi pas ? Nous connaissons tous des gens qui ont vécu, dont on ne sait pas quel sexe ils avaient, jusqu'au jour, par exemple Charlot. Charlot est devenu père à 68 ans, 69 ans, il est devenu amoureux d'une femme capable de lui donner des enfants. Il a été un excellent mari, un excellent père, un excellent hétérosexuel. Il n'était rien avant, il était entièrement sublimé, aussi bien hétérosexuel qu'homosexuel. Et il vivait avec le kid qui n'a pas violé, avec Gloria, machin, je ne sais quoi, avec qui se disputait comme des chiffonniers, comme garçon et fille, et pas du tout amant et maîtresse. Et puis c'est plus tard qu'il a découvert l'hétérosexualité avec, je ne sais plus où, Anna, cette femme qu'il a aimée. Hein, et c'était un garçon, je ne sais pas l'histoire de lui au départ, mais c'était un garçon qui était entièrement dans les sublimations du voyeurisme, qu'il en a fait du cinéma et de la motricité. Et il en a fait cette extraordinaire carrière de se moquer. De se moquer du désir de devenir quelqu'un de bien. Hein, c'était intéressant, en fait. C'est un des exemples les plus extraordinaires de notre société actuelle pour étudier ce que c'est qu'une sexualité prégénitale sublimée et qui devient une sexualité tout à fait normale dans la vie relationnelle à partir d'un certain moment.